c'est vendredi. Et qui dit vendredi dit chronique pop avec vous, Rudy Lyonnais. Bonjour.
Bonjour Pierre-Yves.
En Angleterre, Channel 4 a diffusé ce lundi un documentaire autobiographique sur George Michael, dont ce sera bientôt le premier anniversaire de la mort.
Eh oui, déjà. Oui. Une disparition qui se célèbre de deux manières. Tout d'abord, aujourd'hui, avec la réédition, voilà, je l'ai en main, d'un collector de Listen Without Prejudice, volume 1. On n'aura jamais reçu le volume 2. Son second album solo sorti en 1990 et qui marque un basculement dans sa carrière. Mais aussi, vous avez raison, effectivement, avec un documentaire un peu particulier, un documentaire autobiographique qui a été diffusé en première mondiale par les producteurs du doc lundi soir, Channel 4, intitulé George Michael Freedom. Ce film aura peut-être un effet contraire à celui qui était escompté.
Alors pourquoi ce documentaire n'est pas le testament définitif qu'on pouvait attendre?
Alors, resituons la disparition soudaine et hautement symbolique de l'interprète de Last Christmas, le jour de Noël 2016, a été une véritable déflagration dans l'inconscient collectif britannique, avec un raz-de-marée de dévotion quasi christique, comme on n'en avait plus vu depuis la mort de Diana.
Alors, qu'est-ce qui le rendait si spécial et si attachant, ce George Michael?
Eh bien, en dehors de son talent hors norme et de sa fulgurance, de sa trajectoire fulgurante, c'est son rapport inédit à la célébrité qui en a fait un héros presque ordinaire. Là où on a appris qu'après leur mort et après beaucoup d'investigations que la vie privée de Michael Jackson ou Prince était finalement assez misérable, avec beaucoup d'addictions, et bien ceux-là qui ont toujours été en représentation même en dehors de la scène, George Michael était un contre-exemple qui n'a cessé d'être honnête en parlant de lui, de ses insécurités et du personnage de star qu'il avouait avoir créé comme un personnage qui ne le ferait jamais renoncer à son véritable lui, à lui-même. Et c'est cet aveu de faiblesse malgré 90 millions d'albums vendus qui ont fait de lui une star finalement très très humaine.
Et donc ce documentaire de Channel 4 vient brouiller les pistes, c'est ça?
Oui, ce doc a été réalisé par George Michael de son vivant, c'est sa dernière œuvre avant sa disparition. Mais bizarrement, alors que la voix off narrative est clairement la sienne, la silhouette à l'image est celle d'un comédien filmé de dos, assis et qui tape sa vie sur une machine à écrire. Mmh. Voilà, il est même au générique, Simon Rutter, pour ceux que ça intéresse. On pense à une doublure puisqu'il est mort, mais l'introduction faite par Kate Moss suggère que le documentaire a bel et bien été terminé quand George Michael était encore vivant, ce qui rend cette scène absolument et cette mise en scène totalement intrigante. Zappé aussi Fadi Fawaz, qui était son partenaire qu'il a découvert, mort, Andrew Ridgeley, son ancien partenaire dans Wham, qui n'apparaît jamais, ignorait aussi son père, ses sœurs, très importantes dans sa vie, comme si cela avait été fait par une personne incapable d'accéder aux fichiers des contacts de sa propre famille. Et autre bizarrerie, alors que George Michael a poursuivi en vain Sony Music en 1992, les plus anciens s'en souviennent, à travers une action en justice qui était énormément médiatisé, pour se libérer d'un contrat à long terme qu'il considérait comme un esclavage artistique, le générique du documentaire ouvre sur Sony Entertainment Presents, ce qui est quand même un peu bizarre et laisse largement la parole aussi à d'anciens patrons de la firme au cours de ce documentaire. Alors au final, c'est un peu comme voir un documentaire sur le Brexit qui aurait été financé par l'Union Européenne, comme si on avait voulu réécrire l'histoire ou restaurer une image pour la finalement rendre parfaite maintenant qu'il est mort et qu'il n'a plus le contrôle sur cette honnêteté ou ce vœu de transparence qui avait été le sien tout au long de sa vie.
Alors si on veut le voir quand même, ce documentaire, est-ce qu'il y a moyen puisqu'on ne capte pas Channel 4?
Alors pour les impatients, ça sera sur la VRT, sur Canvas, le 26 octobre avec les sous-titres flamands. Et puis pour ceux qui souhaiteraient avoir les sous-titres francophones, il faudra attendre le 22 décembre une diffusion sur Arte.
Merci Rudy Lyonnais. 7h42 sur la première. Dans quelques instants, on va retrouver le café serré, et notre invité c'est Alain Hubert aujourd'hui. Mais avant cela, Caroline Gillet va nous aider à circuler dans la jungle urbaine aujourd'hui, surtout que le sommet européen crée pas mal de soucis.
Et oui, puisque le quartier Schuman et le tunnel Reyer Centre sont fermés à la circulation. Ajoutez à cela, dans le centre de Bruxelles, un véhicule en panne dans le tunnel Bailly qui neutralise la voie de droite en direction du centre. Et puis sur le ring de Bruxelles, deux accidents signalés. Un premier en circulation intérieure à hauteur de Zaventem en voie de droite vers Waterloo. Second accident, toujours en circulation intérieure, c'est à hauteur de Grimbergen. Là, c'est la voie de gauche qui est neutralisée vers Zaventem. Et sur ces deux tronçons, vous perdez en moyenne 20 à 25 minutes.
En 2018, Bruxelles devient une zone de basse émission. Les véhicules les plus polluants seront donc interdits dans toute la région. Plus d'infos sur lez.brussels.
7h44, dans quelques instants, le scientifique Alain Hubert répondra aux questions de Thomas Gadisseux. Mais avant cela, on lui sert le café serré. C'est avec Charlotte de Coquer. Bonjour Charlotte.
Mais bonjour les garçons, bonjour tout le monde. Alors, il y a quelques jours, un monsieur que je ne connaissais pas m'écrivait